Transport en commun supprimé, retardé, colis suspect, défaut d'exploitation. Mais côté voiture, c'est aussi autoroute bouchée, rue saturée. Mais il y a un irrésistible Gaulois qui réussit à se frayer un chemin à toute berzingue autour des autos. Ce sont les trottinettes, les segways, les monoroues, mais aussi les vélos. Bonjour, vous êtes bien sur Radio Campus Paris et vous écoutez VTC, l'émission qui se déplace vers l'actualité. Notre premier invité s'appelle Aymeric Cottard. Il travaille pour mieux se déplacer en bicyclette, MDB, une association qui adore parler de vélo. Alors dans cette émission, on parlera de mobilité en Ile-de-France, mais aussi de la passion d'Aymeric pour le vélo. Bonjour Aymeric.
Salut Manu.
Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Bon, je vais pas vous mentir, je viens de faire 20 minutes pour te rejoindre ici. Alors que de base en bus, je le fais en 15 minutes. Est-ce qu'on peut vraiment parler de mobilité douce ?
La mobilité douce, c'est un terme qui me risse un peu le poil. Je vais pas te le cacher. J'aime pas utiliser ce terme parce que c'est un peu compliqué de comprendre précisément à quoi ça fait référence. Moi, je travaille dans une association de cyclistes. On aime bien parler de mobilité active, où la personne qui se déplace fait un effort. C'est je pense, la grande différence avec les mobilités douces qui peuvent inclure les mobilités actives, mais qui vont aussi inclure un tas de mobilités qui sont assez nouvelles et qui se définissent surtout par opposition à la voiture ou au transport en commun lourd, les grosses machines, les bus, les métros, les voitures, les motos même. Donc tout ce qui est voilà, trottinette, gyro-roue, ça peut être interprété comme faisant partie des mobilités douces. Pardon. Mais moi, ce n'est pas quelque chose que j'aime parce que je pense que ça entretient une confusion entre des mobilités vertueuses, des mobilités à faire évoluer. Et certains peuvent penser que c'est bon, les mobilités ont fait leur transition écologique, économique, durable, etc. Alors qu'en fait, pas forcément. Aujourd'hui, on a des trottinettes électriques qui peuvent aller à 80 km/h. Je suis pas sûr que ça recouvre vraiment le terme de mobilité douce.
La dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était en 2020. On discutait du cyclisme dans Paris pendant la période du Covid, si je me rappelle. Alors depuis, est-ce qu'il y a évolution ou régression ?
Très très bonne évolution, très clairement. En 2020, on assistait à un boom du vélo que nous, dans nos associations, on travaillait à permettre depuis plusieurs années et on commençait vraiment à en voir des fruits bien bien mûrs avec des records qui étaient battus sur toutes les pistes cyclables, des nouvelles pistes cyclables qui battaient des records tout de suite après leur mise en service, le boulevard Sébastopol qui avait été aménagé en 2019, qui à partir de 2020 a commencé à être un des axes cyclables regardés partout dans le monde, tellement il y avait de cyclistes dessus. Aujourd'hui, on est dans une phase où l'utilisation du vélo continue à augmenter, en Ile-de-France en tout cas. Et nous, en tant qu'associatif, on a toujours du mal à digérer le fait que les villes n'évoluent pas aussi vite que les usages. Il y a de plus en plus de gens qui se mettent au vélo. On a des parts modales qui grimpent sur tous les axes qu'on étudie. Et on constate que les franciliens, ils sont prêts à faire du vélo. Par contre, les élus, les collectivités, rechignent parfois encore à prendre de la place là où il y en a pour mettre les cyclistes dans de bonnes conditions pour se déplacer et faire en sorte que ceux qui hésitent encore mettent en selle.
1er septembre, rentrée des classes, mais suppression des trottinettes électriques en libre service. Est-ce que ça a été un choix judicieux de les supprimer dans Paris ?
Moi, je pense que c'est un peu un bouc émissaire facile. Il y a eu des accidents de trottinettes qui ont été vraiment mis sous le feu des projecteurs. On peut évidemment pas ignorer les accidents quand ils sont aussi médiatisés qu'ils ne l'ont été. Mais je trouve que ça rend encore plus amer le silence qui entoure la grande majorité des accidents de circulation à Paris et même en France, hein, de manière générale. On a tous les ans 3000 à 3500 personnes qui décèdent sur les routes, des milliers de blessés. Et quand on a effectivement, je crois qu'il y a eu deux accidents mortels de trottinettes à Paris qui ont été vraiment très médiatisés, le Paris et le Valois d'ailleurs. On a trouvé ça immonde et on est arrivé à des réactions un peu caricaturales parfois. C'est pas les trottinettes qui tuaient à Paris. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, supprimer les trottinettes électriques en libre-service, ça va libérer un peu de place sur les trottoirs. Donc ça, on peut pas nier que c'est une bonne chose. Par contre, ça va encourager beaucoup de leurs anciens utilisateurs à acheter leurs propres trottinettes. Et ces trottinettes-là, elles sont pas contrôlées. Il y a les trottinettes qui correspondent aux trottinettes en libre-service dans leur puissance, etc. Et puis, il y a les trottinettes, c'est quasiment des motos ça va à 60, 70, 80 km/h et ça circule sur les pistes cyclables. Pistes cyclables qui aujourd'hui encore sont trop souvent sur les trottoirs. Donc il y a des conflits d'usage avec des piétons qui logiquement ont du mal à tolérer des cyclistes à 20 km/h qui vont être terrifiés quand ils vont avoir à gérer des gens en trottinette ou en overboard, en monoroue, je sais quoi, à 40, 50, 55 km/h.
Et le fait de les avoir redéployés dans d'autres agglomérations comme Saint-Quentin-en-Yvelines ou Cergy-Pontoise, est-ce que c'est un bon choix aussi ou...
Je pense que c'est un bon choix. Pour le coup, la suppression du marché qui devait être extrêmement rentable à Paris pour les opérateurs, ça les a forcés à trouver de nouvelles solutions pour faire croître leur entreprise. Et du coup, effectivement, aller dans des zones qui sont moins bien desservies par les transports en commun, ça permet d'ajouter, bah, comme à Paris hein, en fait, d'ajouter une nouvelle alternative à l'utilisation de la voiture qui là va être d'autant plus nécessaire que bah, les transports en commun sont moins fréquents ou ont une amplitude horaire moins importante, de moins bonne qualité, etc. Il n'y a pas de solution de remplacement s'il y a une ligne qui est en travaux, etc. Peut-être qu'à terme, ça permettra aussi de rendre les choses acceptables pour Paris. Paris, c'est une ville qui est extrêmement surveillée, scrutée. Ce qui se passe à Paris, en fait, c'est très politique et c'est très clivant. Mais je pense que quand toutes les villes d'Île-de-France auront adopté la trottinette, si elles l'adoptent, ce qui n'est pas dit, hein, peut-être qu'on se dira, mais pourquoi est-ce qu'on n'en a pas à Paris ? Et qu'on commencera à se dire, bah, en fait, à Paris, les trottinettes, c'est le bordel, mais c'est pas plus le bordel que les voitures.
Quelle serait l'attitude à avoir en tant que cycliste ou trottinettiste pour être en sécurité dans Paris ou en Île-de-France ? Où on voit qu'il n'y a pas vraiment d'infrastructure quelquefois.
Bah, rejoindre les associations et faire en sorte qu'on pèse de plus en plus lourd auprès des autorités. Je pense qu'aujourd'hui, depuis même une grosse quinzaine d'années, on a vraiment beaucoup grandi, on s'est beaucoup structuré. Et aujourd'hui, on est quand même pas mal écouté, mais pas encore assez. Et les forces qui luttent contre le rééquilibrage de l'espace public sont encore très puissantes. Donc ça, c'est pour le long terme et ce qui me semble être le plus efficace. Après, dans l'instant T, si demain vous voulez prendre votre vélo et que vous cherchez à être en sécurité, plein de choses à prendre en compte. Il faut avoir un vélo en bon état. Ça, voilà, il n'y a pas de secret. Si vous ne pouvez pas freiner, vous allez avoir un accident. Il faut anticiper énormément. Moi, je me suis déplacé à moto pendant longtemps. J'ai appris à anticiper le plus possible. Il faut anticiper encore plus quand on est à vélo. Parfois les gens ils nous ont vus mais ils pensent qu'on va pas vite et du coup ils nous grillent une priorité quand même, ils nous coupent la route et du coup il faut anticiper non seulement l'échange, le contact visuel avec les automobilistes ou les piétons même qui vont croiser notre route et puis il faut garder en tête que même s'ils nous ont vus, ils peuvent penser que parce qu'ils sont plus lourds ou parce qu'ils sont prioritaires, vous allez vous arrêter. Parfois vous pouvez pas vous arrêter ou alors vous êtes prioritaire et l'autre ne peut pas s'arrêter, donc il faut anticiper vraiment ces interactions avec les autres usagers de l'espace public.
À l'instar des Jeux Olympiques où l'on doit créer des Olympistes pour circuler dans tout Paris, tout mode, penses-tu qu'on sera prêt, voire doit-on partir en vacances vu que ça va être un grand bordel?
Ça va être à la ville de Paris et à la préfecture de police de répondre. C'est eux, c'est elles qui sont en charge de l'aménagement concrètement. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un peu de retard quand même sur la mise en place de ces Olympistes qui ont été portés par les associations et que la ville de Paris a voulu mettre en place parce qu'elle a bien conscience que les Parisiens veulent faire du vélo, que les Franciliens veulent faire du vélo et que les touristes qui vont arriver, ils vont pas vouloir s'entasser dans le RERD. Ça va pas tenir pendant les 2 mois des Jeux Olympiques. Ils vont vouloir trouver d'autres solutions. La voiture, la Paris sera congestionnée comme elle l'est toujours. Le vélo, c'est une énorme opportunité pour que les gens se déplacent en profitant de la vue magnifique qu'il y a à Paris. Quand vous vous baladez et qu'au détour d'une rue vous avez la Tour Eiffel ou le Sacré-Cœur qui est visible, forcément c'est mieux que d'être dans un souterrain ou d'être dans les bouchons à regarder son voisin dans l'autre taxi. Donc je pense que voilà, on est un peu en retard, ça va être probablement assez contraignant. Après moi j'ai des places pour les Jeux Olympiques donc forcément je vais y aller, hein, je serai là.
On a révolutionné la voiture avec les autoroutes, on a eu les transports en commun avec le RER, le tramway, mais c'est vrai qu'il y a une personne qui n'est pas vraiment concernée, c'est le piéton. J'ai l'impression qu'on est un peu en train de lui grignoter sa place de plus en plus. J'ai l'impression que le piéton devient un peu un nuisible, je sais pas si ça on peut le dire comme ça, mais ça devient un peu un nuisible. J'ai l'impression qu'il n'a plus sa place dans Paris, sachant que la majorité des personnes qui circulent dans Paris ou en région parisienne sont majoritairement à pied. Et j'ai l'impression qu'on grignote son terrain pour se garer, notamment la voiture ou des circuits, des pistes cyclables. Quelle sera sa place ou quelle est sa place aujourd'hui?
Ouais, je suis d'accord avec toi sur le constat final, c'est-à-dire que le piéton il est parfois considéré comme nuisible ou on fait avec mais on aimerait pouvoir s'en passer. Par contre, je pense pas que ça soit de plus en plus aujourd'hui. Je pense que ça date d'il y a beaucoup plus longtemps. C'est la voiture qui a pris de la place aux piétons. C'est vraiment l'extension du domaine routier et l'élargissement de toutes les routes et de toutes les rues dans les villes qui a causé beaucoup de tort aux piétons et qui a fait que se déplacer à pied, c'est vu comme quelque chose d'étrange par plus ou moins tout le monde. Aujourd'hui, on ne les voit même plus, mais dans Paris, il y a des millions de potelets qui protègent les trottoirs du stationnement des voitures. Avant ces potelets, les gens se garaient sur les trottoirs. Aujourd'hui, on est à Maison-Alfort, tu vas dans la rue d'à côté du bar, les voitures sont garées sur le trottoir. C'est tellement entré dans notre habitude qu'on ne s'en plaint même plus. Pourtant, il y a plein de petites rues pavillonnaires là dans Charentonneau, le quartier pavillonnaire de Maison-Alfort à côté duquel on est, où le stationnement est matérialisé des deux côtés sur les trottoirs. Quand tu es un piéton avec une poussette ou en fauteuil roulant, ou même que tu portes quelque chose d'un peu encombrant, bah en fait, tu es obligé de te retrouver sur la route. Et dès qu'il y a une voiture qui arrive derrière toi, bah c'est à toi de te pousser. Donc, tu es un peu, effectivement, la gêne pour les gens légitimes. Donc, c'est quelque chose qui remonte à vraiment beaucoup plus longtemps que ce que tu dis. Après, effectivement, quand on a commencé à considérer un peu les cyclistes, c'était pas au détriment de la place de la voiture. Et du coup, on a commencé à faire des pistes cyclables sur les trottoirs. On a le cas en banlieue, il y a des millions d'exemples de pistes cyclables vraiment mal pensées, parce qu'il fallait pas gêner la circulation des voitures. Donc on a des pistes cyclables qui sont faites sur le trottoir, qui vont parfois réduire un peu la place des piétons, voire supprimer la place des piétons, et au petit bonheur la chance, maintenant les piétons ils continuent à marcher, parce qu'un piéton ça va marcher des deux côtés de la route, dans les deux sens, qu'il y ait un trottoir ou pas finalement. Et si on dit qu'un usage est réservé, enfin un des trottoirs est réservé en fait aux cyclistes, ça sera pas respecté. Et on le sait tous, et quand on décide de faire un aménagement en ce sens, on crée les conditions du conflit entre les piétons et les cyclistes. Plus de la moitié de l'espace public il est réservé à l'usage automobile, c'est là qu'il faut aller prendre de la place, pas sur les piétons.
T'as déjà eu une embrouille avec un automobiliste ?
Ouais, ça m'est arrivé. Bah, faut faire attention parce que quand tu t'embrouilles comme ça, t'es souvent pris dans l'adrénaline du truc. Ça m'est arrivé d'avoir peur pour ma vie en fait, parce qu'il y a un comportement était ne serait-ce qu'inattendu. Au-delà même du tort, parfois c'est juste l'inattention et la surprise qui fait que tu te dis mais là j'aurais pu mourir. Et quand tu commences à t'embrouiller avec ce sentiment en toi, t'es très vite très virulent et voilà, faut faire attention à pas être violent pour rien, que après tu maîtrises pas comment va se développer l'embrouille et puis quand tu vas au travail ou que tu rentres du travail, t'as pas spécialement envie de te battre, donc ça m'est arrivé de m'embrouiller et au maximum j'essaye de leur dire mais en fait vous m'avez fait peur et il y a un truc où ce que vous avez fait qui vous aurait fait gagner peut-être 1, 2, 3, 5 secondes, moi ça aurait pu me tuer et c'est pas un gain qui semble en valoir le coup en fait.
En discutant avec toi auparavant pour préparer cette interview, il y a un peu de rugby pendant qu'on parle. J'ai appris que tu avais vendu ta moto pour acheter ton vélo. Ouais. Comment t'as eu ce déclic de se dire je...
C'est pas ça qui m'a motivé. C'est pas la question environnementale. Forcément, j'étais au courant. Enfin, je regarde les infos de temps en temps. Je lis un peu les journaux, etc. Je suis sensibilisé à la question. Mais c'est pas ça qui fait qu'on se dit bon bah pour la planète, je vais me mettre à rouler à 20 km/h au lieu de 110. C'est pas convaincant comme argument, je pense. Moi, c'est le fait que quand je suis sur une moto, je roule vite. J'aime ça. Je prends des risques. Et tout ce que je dénonce aujourd'hui en tant que cycliste, c'était un peu mon comportement à moi quand j'étais à moto. La moto, plus que la voiture encore, c'est un mode de transport qui concentre les excès. Les profils de motards sont très souvent à risque. C'est des gens qui aiment bien la vitesse, les fortes accélérations, se faufiler. À Paris, il y a beaucoup de gens qui se faufilent, qui font de l'interfil. C'est une pratique qui est dangereuse malgré tout. Et moi, je faisais ça. Donc moi, c'était pour arrêter les risques parce que... Alors, j'ai eu deux accidents sans aucune conséquence grave, où je me suis dit, heureusement que j'ai eu ces accidents à 30 km/h et pas à 90, ça n'a pas été les mêmes conséquences. Et donc ça, conjugué à la question financière, moi j'étais étudiant à l'époque, je venais à la fac à moto, je faisais 15 km par jour, aller 15 km retour. Je bossais à côté à mi-temps et je mettais la moitié de ma moitié de SMIC dans la moto. Et pour moi c'est normal, c'était vraiment, j'ai besoin d'une moto pour aller au taf parce que je vais pas y aller en transport parce que sinon je vais être en retard en cours ou alors je vais moins dormir la nuit ou alors je vais moins pouvoir sortir le soir et j'ai pas envie de ça, donc il me faut un véhicule. Une moto, c'est plus pratique qu'une voiture à plein d'égards à Paris. Donc, j'avais un budget moto qui était de quelque chose comme 350 € par mois, 400 € par mois. Parce qu'il y a l'assurance, parce qu'il y a l'essence, parce qu'il y a le crédit de la moto ou l'amortissement de la moto, même si tu l'achètes sec. Et puis, parce qu'il y a les amendes, puisque quand t'es à moto, tu finis par te prendre une amende à un moment ou un autre, et moi j'en ai pas pris qu'une, donc forcément c'est pas un budget qui est prévisible, mais avec l'expérience tu finis par le prendre en compte. Et un jour je me suis dit, mais comment je fais pour continuer à vivre et à pouvoir me déplacer, parce que j'habitais presque en Grande Couronne, à Mandres-les-Roses, c'est vraiment pas bien desservi par les transports en commun, et j'ai acheté un vélo, ce qui représentait à l'époque le budget de même pas un mois de moto. À 300€, j'ai eu un vélo qui m'a permis de relier le métro. Et donc en fait, vélo plus transport en commun, c'était le mix parfait pour faire des économies, moins me mettre en danger, faire un peu de sport, parce que j'étais à la fac, j'avais arrêté le PS au lycée, et en fait ça commençait à se sentir, et je voulais pas de ça, et donc voilà, plein de petits trucs qui font que je m'y suis mis, et la conscience écologique, elle m'a plus permis, on va dire, de généraliser, de systématiser mes déplacements en vélo, de me dire, ben en fait, là je vais demander à ma mère de me passer sa voiture, ou je vais demander à ma mère de m'accompagner, mais je pourrais le faire à vélo, donc vas-y, je vais plus lui demander. La conscience écologique, c'est vraiment pour ça, c'est plus pour la systématisation que pour se mettre en selle.
Bon, je vais pas te mentir, je fais un peu partie de cette team qui fait du vélo de manière saisonnière, en été, quand il fait chaud, en printemps quand le soleil commence à arriver, mais dès que le froid arrive comme là, tu me vois pas sur un vélo, tu vois plutôt dans un souterrain à prendre le métro, le RER. Comment t'arrives à te motiver et te dire je vais faire du vélo pendant les 4 saisons, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il fasse chaud? C'est dur quoi.
Bah je me dis pas ça. Quand il fait trop froid ou quand j'ai trop la flemme, je prends les transports. Et j'ai un abonnement Navigo que j'utilise quasiment pas, où je pourrais me dire bah en fait faut que j'arrête de le prendre, c'est 75 balles jetées par la fenêtre.
80.
Mais ouais, 80 balles pardon. Jetées par la fenêtre. Mais en fait pour certains trajets c'est pratique, et ça fait justement ce filet de sécurité où je me dis je peux même faire l'aller à vélo, et puis si en rentrant je suis trop fatigué, bah je laisse mon vélo là où il est, je rentre en transport, et le lendemain j'irai le chercher, ou je ferai, tu vois, si c'est pour par exemple au travail, le lendemain je viendrai en transport et je rentrerai à vélo. Et du coup je fais pas tous mes trajets à vélo, je fais quand même pas mal de trajets en transport en commun. Par contre, de manière générale, on voit bien qu'il y a moins de cyclistes en janvier-février qu'en mai-juin, parce qu'il fait froid et il fait moins beau et il fait nuit plus tôt, et du coup les gens ils veulent pas faire de vélo. Moi, ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que j'ai commencé à faire du vélo au printemps. L'automne est arrivé, le mois de novembre je crois est arrivé, et je me suis dit vas-y, non, je prends les transports, hop, j'ai repris les transports, et en fait ça m'a sacrément déprimé de galérer avec le RERD. C'était pas possible en fait. Le RERD avec un train supprimé sur 5 tous les matins, où en fait t'es censé prendre le train de 7h20, mais tu sais que tu prends le train de 7h05, sinon tu seras en retard. C'est pesant, et puis même quand il n'y a pas de problème de suppression de train, après j'ai déménagé, j'étais à Maison Alfort, et du coup je prenais la 8. La 8, bah c'est bondé en fait. Les gens ils viennent tous dès Créteil, et à Maison Alfort c'est l'enfer. T'es saucissonné là comme ça. Moi non, c'est bon. Pour aller de Maison Alfort à Bastille à vélo, je sais bien que c'est pas représentatif de tout le monde, mais je mettais 25 minutes pour aller au taf en vélo. En métro, j'en mettais 27 de porte à porte. Et c'est ça le truc, c'est qu'en fait il y a un moment où sans correspondance, tu vas plus vite en vélo, parce qu'à Maison Alfort on a une situation qui est archi privilégiée. On a les bords de Marne et les bords de Seine. On n'a pas de feu rouge pendant 5 ou 6 km sur notre trajet. C'est rare. Tu vois que concrètement c'est pas une peine de faire du vélo, même en hiver. Enfin, il y a des intérêts en tout cas à le faire. Il y a des peines, il y a des inconvénients. Par exemple, justement, quand j'étais en Véligo, j'avais très froid l'hiver. T'es sur un vélo, t'es à l'air libre. Donc même si tu mets des gants, quand tu roules à 25 km/h, ça fait du vent et t'as froid. Et maintenant, je suis passé sur un vélo mécanique et du coup, je fais plus d'activité physique, je fais plus d'efforts. Et en hiver, j'ai pas froid. Je démarre, j'ai froid, et au bout de 2, 3, 4 minutes, je suis échauffé en fait. Et du coup, je roule tranquillement. Si je veux faire du sport, je fais du sport, mais ça me fait suer, donc j'évite. Mais tu roules et en fait tu te réchauffes naturellement et t'as pas froid à vélo l'hiver. Moi je pense que je fais moins de vélo en juillet août, en août surtout, qu'en février mars.
Avant de partir, Aymeric, quelle serait ta question pour le prochain ou la prochaine invitée que nous recevrons?
La question, c'est: est-ce que vous avez pensé à réfléchir à pourquoi est-ce que vous utilisez le moyen de transport que vous utilisez au quotidien? Par habitude, on prend tous la voiture parce que nos parents se déplaçaient en voiture, ou on prend les transports en commun parce qu'on n'a pas envie ou on n'a pas les moyens de s'acheter une voiture. Mais si vous y réfléchissez, est-ce que parfois il y a des trajets que vous faites en voiture, en transport en commun, que vous pourriez faire en marchant ou à vélo? Donc est-ce que vous y avez pensé ou pas? Et si vous y avez pensé, bah félicitations, parce que c'est déjà, je pense, un premier pas important pour qu'ensuite vous changiez vos habitudes de mobilité vers des moyens de transport plus sobres et efficaces en ville.
La personne va répondre.
Génial.
Merci beaucoup, Aymeric.
Merci à toi.
Bon, j'ai 35 minutes de bus qui m'attendent.
Il y a une station Vélib à 100 mètres.
Mais la station en bas de chez moi ne marche pas. Elle est en travaux. VTC, c'est terminé. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle
actualité. À la technique, il y a Jean et Kéliane. À l'antenne, Philippe, que je remercie. Je vous laisse entre de bonnes mains sur Radio Campus Paris. Passez une excellente fin de soirée et prenez soin de vous.